Amis, frères et sœurs, notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. En ce deuxième dimanche de l'Avent, marqué symboliquement par deux bougies allumées sur cette couronne, nous souhaitons la bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps de culte. Bienvenue dans ce lieu de prière, que vous soyez des habitués du lieu ou que vous veniez ce matin pour la première fois, vous êtes ici chez vous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, Béatrice et moi, nous accueillons le pasteur Christophe Cousinier de l'Église protestante unie des Vallées Cévenoles. Christophe, si tu veux bien te lever. Voilà. Christophe est pasteur référent également dans le Val de Salindranck et à Mialet-Corbès et aussi à ses heures perdues. Il est rédacteur en chef d'Évangile et Liberté. Voilà, c'est Christophe qui nous conduira dans la prédication ce matin. Merci à tous les musiciens qui nous accompagnent ce matin. Tout d'abord, Sarah Kim à l'orgue et Fred Lherminier au hautbois. Déjà, un immense merci pour votre accompagnement. L'avenir est loin. La marche en avant est pénible. La tâche immense. Et nos moyens misérables. Il y a des heures où la lassitude nous gagne. Dieu, notre ami, nous dit alors, en ces heures, arrête-toi pour reprendre des forces. Ne t'obstine pas. Tu ne fourniras qu'un travail médiocre. Pense au réconfort. Fais une halte. Le culte est un temps de halte et de repos, un temps pour reprendre des forces. Dieu nous donne aujourd'hui l'énergie de vie afin qu'elle surgisse dans nos existences comme au matin de Pâques. Du tombeau vide, la vie a surgi. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu de prière et de communion. Permets que nous soyons une communauté fraternelle, accueillante, joyeuse pour celles et ceux qui nous entourent. Envoie ton esprit sur chacun et chacune de nous et notre foi fera grandir notre amour du prochain. Béni sois-tu pour la fidélité de ta présence et de ton amour. Amen. Et pour ouvrir ce culte, nous prendrons maintenant le premier répond qui se trouve dans la liturgie de l'Avent et de Noël, située au tout début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, je vous invite à vous lever.
Nous louons l'Éternel. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux nobles, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière. Et ce, même jour, ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste de génération en génération. Louez l'Éternel. Et je vous invite, après ce psaume 146, à chanter le psaume 91 dans les psautiers. 91, les strophes 1, 2, 3 et 5. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard, selon un extrait de l'Évangile de Matthieu. Ne vous inquiétez pas donc en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
reconnaissons notre péché. Pourquoi dois-je toujours me condamner aux souvenirs les plus mauvais? Pourquoi est-ce que je leur laisse trop de place dans ma mémoire? Ai-je en moi et en mon cœur tant de places vides pour leur en laisser autant? Et alors que j'oublie de tant belles choses, faut-il que je ne conserve que les rancunes et le mal que l'on m'a fait? Éternel, il y a des actes impardonnables, des êtres qui ne méritent ni excuses, ni bienveillance, ni indulgence. Permets-moi de ne pas les associer toujours à mes pensées et de m'enfermer ainsi dans ce mal. Fais-moi encore entendre ta voix qui me dit « Laisse tomber l'injure à terre et ne la ramasse pas. Baisse-toi plutôt pour ramasser la fleur, si humble soit-elle, et qui, aujourd'hui, là où tu es, te sourit. Amen. » Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Et l'Éternel nous répond et nous parle. Au fond de toi-même, creuse une tombe, qu'elle soit comme ces lieux vers lesquels ne conduisent aucun sentier. Et là, dans l'éternel silence, ensevelis le mal qu'on t'a fait. Ton cœur sera libéré comme d'un fardeau. La paix divine y régnera. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Je vous invite à confesser notre foi ensemble. Et cette confession de foi est écrite d'après le catéchisme républicain de 1842. Et c'est Christophe qui nous a apporté ce texte. Je crois que je suis créée pour être un humain libre, né pour aimer mes frères et sœurs et les servir, pour vivre de mon travail et de mon bonheur. Je crois en celui dont la force créatrice a tout fait en tout lieu, le ciel, les éléments, les animaux, les hommes, les astres, la lumière et le globe où nous sommes. J'y crois en l'admirant et je l'appelle Dieu. Je ne sais ce qu'il est, mais je vois son ouvrage. Tout à mes yeux surpris annonce sa grandeur. Mon esprit trop borné n'en peut tracer l'image. Il échappe à mes sens, mais il parle à mon cœur. Je crois que l'ordre de l'univers atteste sa présence. Tout est, pour les humains, ou merveille ou bienfait. Son culte est le respect et la reconnaissance. L'hommage qu'il préfère est le bien que l'on fait.
Vous asseoir. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Marc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était pour pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps, affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Et je vous invite à chanter au cantique 170, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
Et nous prions. Éternel, nous voici ce matin pour nous mettre à l'écoute de ta parole, pour venir près de toi et entendre ce bon message que tu veux nous adresser. Que ta parole ce matin, discernée dans ces mots que nous venons d'entendre, nous déplace, nous bouscule, nous réconforte, nous relève. Qu'elle soit pour nous ce qui vient nourrir notre foi, ce qui nous appelle plus loin, ce qui nous fait grandir. Que ton Esprit éternel soit sur chacune, chacun d'entre nous. Viens nous parler maintenant, fais-nous cette grâce. Amen. Quel courage ou quelle désinvolture. Jésus vient de se faire reprendre sur la question du Shabbat à cause de ses disciples qui arrachaient des épis de blé. Et bien que sa réponse fût des plus éclairantes, je ne suis pas sûr qu'elle ait convaincu les pharisiens offusqués par ce geste. Le voici donc maintenant dans la synagogue, au milieu du religieux, dans le lieu même du religieux. Ce même religieux qui n'apprécie pas du tout l'enseignement de ce jeune homme. Courageux ou provocateur, ce Jésus. Si c'est par provocation qu'il vient au milieu de ceux avec qui il est en désaccord, alors c'est de la bêtise. En effet, provoquer par simple désinvolture ne sert à rien, sinon se faire plaisir à soi-même. C'est mépriser ceux qui sont en face. Et c'est même mépriser le fait d'avoir une opinion différente. Mais si c'est l'acte d'un courageux, alors c'est que ce dernier vient là, au milieu de ses adversaires, avec ses convictions. Et il souhaite faire avancer les choses. Se retrouver en ce jour de Shabbat dans la synagogue, alors même que tous ceux qui sont là pour exécuter leurs devoirs religieux sont dans la condamnation, et regarde cet homme comme un pécheur, se trouver là, ce jour-là, relève du courage que donnent les convictions. Jésus veut faire bouger les lignes. Il vient là, au milieu du religieux, pour le questionner. Peut-être même pour que ce religieux se questionne lui-même sur lui-même. Pas sûr qu'en face, on soit prêt à cela. Oh non, c'est même tout le contraire. La question ne se pose pas. Pas question de bouger quoi que ce soit. Et la réponse est trouvée. Accusons-le. Ou plutôt, il est déjà accusé parce qu'on sait ce qu'il va faire et que ce qu'il va faire ce jour-là est illégal. Pas besoin de plus, pas de leçon à recevoir de cet homme, juste un peu de patience. Regardons ce qu'il va faire. Et l'accusé sera vite un coupable. Alors ne bougeons pas. Ne bougeons rien. Pourrait être le mot d'ordre de ces religieux. Pourquoi changer quoi que ce soit puisque ça fonctionne, puisque ça rassure, puisque ça sécurise? Pourquoi changer la règle qui règle si bien les choses? Ne bougeons pas, ne bougeons rien. Et d'ailleurs, cet appel à l'immobilité, immobilité spirituelle et religieuse, est inscrit dans la conception même de ce jour si religieux qu'est le Shabbat. C'est le jour où on ne doit rien faire. Mais ce rien faire est désormais compris comme un interdit. Interdit strict de faire quoi que ce soit. Et alors, en ce jour, qui aurait pu être compris plutôt comme une pause, ce jour maintenant vient symboliser ce religieux qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. Et dans le texte, l'image même de ce religieux qui ne bouge pas est symbolisée par cet homme à la main paralysée. La main, c'est ce qui sert justement à faire. Lui est empêché. Il est paralysé par cette règle, paralysé par ce droit. Le strict respect d'une loi interprétée par le religieux fige cet homme dans l'action, dans l'inaction, pardon. Elle stoppe tout mouvement, elle l'empêche de bouger, à l'image même de ceux qui ne veulent rien bouger dans leur conception. La loi, comprise comme une règle immuable qu'il faut exécuter, aidera sans doute quelques esprits religieux en les sécurisant. Mais elle rencontrera toujours quelqu'un qu'elle paralysera. Elle paralysera parce qu'elle est comprise comme quelque chose qui doit s'imposer. Et dans ce même mouvement, elle sera aussi source d'exclusion. Car la règle, dès qu'elle n'est plus suivie, exclut. Elle permet de mettre de côté tous ceux, toutes celles qui ne veulent pas qu'on leur impose une règle à laquelle ils ne peuvent pas en conscience adhérer. Cet homme à la main paralysée est mis à l'écart. Il est de côté. Et pire que cela, il est sans doute lui aussi un accusé, puisqu'il est à terre. Lève-toi, viens au milieu, dit Jésus à cet homme. Il l'invite déjà à retrouver du mouvement en se levant. Il l'invite à se relever de l'accusation et de la culpabilité. Il l'invite à retrouver sa place au milieu d'une humanité dont il avait été mis de côté. Par cette simple parole prononcée, au cœur même d'un religieux paralysant et excluant, Jésus invite à replacer l'humain au centre de la préoccupation de toute forme de religion. Là où la loi, le Shabbat, est compris comme un interdit et force d'exclusion, l'Évangile nous invite au contraire à comprendre la place centrale de l'humain dans la relation au divin. Ce divin n'impose pas une loi qui place l'homme à la mauvaise place. Il est ce qui permet à l'humain de trouver sa juste place. Et tandis que la religion peut sembler parfois inhumaine, Jésus annonce une religion de l'humanité. En ce jour de Shabbat, Jésus vient aussi rappeler la juste place de la règle, de la loi. Dans le passage précédent de cet épisode, au moment où les disciples arrachent ses épis de blé, où on critique ce geste, on lui reproche à Jésus, il répondra « Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Une première manière de dire le rapport de l'humain à la loi et nous rappeler ce qui est central. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, un instant sur cette loi du repos. Elle se trouve au centre des 10 paroles reçues au Sinaï. Il est comme un lien entre le divin et l'humain. On retrouve le Shabbat comme commandement entre ceux qui concernent Dieu et ceux qui concernent le vivre ensemble humain. Il est le passage du divin à l'humain et de l'humain au divin. Et au cœur même de ces commandements, de cette loi, le Shabbat vient alors comme un temps de pause. Pause peut-être même dans la loi elle-même. Si aucun ouvrage ne doit être fait, c'est que ce qu'impose la loi ailleurs ne doit pas être fait non plus. C'est quelque part le temps sans loi pour retrouver le sens profond de la loi et de la règle. Mais cet espace de liberté qui relie au divin devient l'interdit qui emprisonne le divin et paralyse l'humain. Là où il était possible de vivre un mouvement entre ces deux, divinité, humanité, et vice-versa, l'immobilité est instaurée comme règle. Et nous voyons là toute l'humanité de la religion, toute la construction, la compréhension humaine de la religion qui, d'un espace de liberté, en fait un lieu d'interdit. Alors, entre une religion de l'humain qui ne pourrait être peut-être qu'une simple philosophie, certes très humaniste, mais où toute transcendance semble superflue, et une humanité de la religion où le plus irritant du religieux est là, bien présent, où l'aspect juridique prend le dessus et la place même de l'idée d'un divin, sommes-nous condamnés à choisir entre l'un ou l'autre ? Athanase Coquerel, fils, écrivait « Je vois partout aux prises deux opinions extrêmes, aussi démesurément exagérées, aussi dangereuses l'une que l'autre. » La première dit « Ne croyez en rien, niez toute religion et Dieu lui-même, car c'est par la négation radicale qu'il faut se défendre contre les empiétements ou les abus de l'autorité. » Et c'est ce qu'Athanase Coquerel nomme l'irreligion. Cette irreligion qui affirme que seule la conscience suffit. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent « Vous êtes perdus, vous n'avez de refuge qu'entre mes bras, tombez à mes pieds, livrez-vous à moi et je vous sauverai. Ne voyez que par mes yeux, croyez tout, renoncez à penser, c'est ce qui vous égare. » Et c'est ce que Coquerel nomme l'absolutisme. Absolutisme qui demande d'abjurer la conscience. Eh bien, il me semble que l'Évangile nous propose une troisième voie. La question que Jésus pose à ceux qui cherchent à l'accuser, d'irreligion peut-être, la question de Jésus vient comme une proposition autre. Et il déplace la question de la loi, comprise uniquement comme une règle juridico-religieuse, pour nous amener sur le plan de la morale. Non pas la morale comprise comme les règles qui disent ce qui est bon, cette morale qui a fait tant de mal, mais la morale comprise comme science du bien et du mal, comme théorie qui a pour but le bien. Ce qui est permis un jour de Shabbat, est-ce faire le bien ou faire le mal? Plus question de la loi, mais de sens, de devoir. Oui, l'humain est au centre, mais appelé vers le bien. Un sentiment divin qui le pousse non pas à promulguer des interdits qui, même s'ils protègent, causent du mal ou laissent faire le mal, mais aller vers un idéal qui transcende l'humanité même. L'abbé Marcel Hébert, cité par Ferdinand Buisson dans son échange avec Charles Wagner, dans ce petit livre « Libre pensée et protestantisme libéral », réédité chez Van Dieren, un peu de pub. Marcel Hébert, donc repris par Ferdinand Buisson, écrit « Pour exprimer le sentiment divin, il vaut mieux éviter tout ce qui expose à l'idolâtrie, en rappelant la personnalité humaine, et se borner à des applications fondées sur le mode pratique de la manifestation du divin dans la conscience. Au lieu de Dieu, dire l'idéal du bien, du vrai, de la justice. Et Félix Pécaud reprendra ce concept de l'idéal pour permettre à l'humain et au divin de se rejoindre et de se remettre en mouvement ensemble. Et il développera en 3 points le beau, le vrai, le bon. L'idéal du beau, du vrai, du bon, comme nom que l'on pourrait donner à Dieu. Dans le domaine esthétique, il invite l'humain à être un véritable artiste. Le véritable artiste n'est pas celui qui remplit avec plus ou moins de talent un programme et qui, regardant son œuvre, s'en tient là et ne rêve de plus rien. Non, le véritable artiste, c'est celui qui rêve plus de beauté encore que tout ce qu'il a pu réaliser. C'est celui qui voit à travers la nature et à travers toutes les œuvres de tous les temps un idéal invisible qu'il n'atteindra jamais, mais qu'il poursuit toujours. Et c'est peut-être là que nous rejoignons alors la philosophie d'Emerson, que Raphaël Picon avait repris dans son livre « Le sublime ordinaire ». En langage religieux, s'il faut en user, nous pourrions parler d'avoir conscience d'une création en constante création. Dans le domaine intellectuel, le véritable savant n'est pas celui qui emmagasine des faits, des mots, des chiffres, des objets, et s'en tient là. Non, c'est celui qui cherche la loi des faits, qui remonte aux causes, qui tâche de saisir le secret de la nature, d'entrer en communication par sa raison avec la vérité éternelle, universelle. C'est celui qui est à la recherche du vrai. Enfin, dans le domaine éthique, l'homme de devoir, de dévouement, qu'il soit le héros ou le saint, n'est pas celui qui exécute une tâche à remplir, qui observe une consigne, une règle, et qui reste content de lui une fois fait. Non, c'est celui qui est épris d'idéal. C'est celui dont la conscience est attirée par le bien. Avec la même force que le beau attire l'imagination de l'artiste et le vrai, la raison du penseur. Et si nous devions là aussi retrouver cette définition du divin dans un langage qui nous est plus familier, nous pourrions dire que cette définition du divin comme un idéal du beau, du vrai et du bien rejoint le commandement « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même ». Aimer l'idéal de tout son cœur, de toute son âme qui nous apporte et nous attire vers le beau, de toute notre pensée qui nous fait chercher le vrai, et son prochain comme soi-même qui nous permet de faire le bien. L'amour du divin au centre de la foi et des aspirations humaines, une humanité au cœur de la préoccupation religieuse. Oui, Jésus proclamait en même temps la religion de l'humanité et l'humanité de la religion. L'Évangile appelle chacune et chacun à se lever et à aller vers cet idéal du beau, du vrai et du bien. Il invite au mouvement qui replace la conscience de chacune et de chacun au centre, au milieu du sentiment religieux. Il invite à vivre ce sentiment en relation avec les autres. Alors, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, mon ami, lève-toi, viens au milieu. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 343, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, c'est maintenant le moment des annonces.
Merci Christophe pour cette belle prédication qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir beaucoup sur la question religieuse. Merci. Je vais maintenant passer la parole à notre président de l'Entraide. Hier se trouvait ici la vente de l'Oratoire du Louvre et nous avons donc eu 2 jours complets là, de vente ici. De tas d'objets. Et donc, je vais laisser la parole à Gilles pour nous dire ce que vont devenir les stocks qui ont été donc entreposés. Vous avez dû voir à l'entrée du temple que nous étions un peu en désordre ce matin, même si c'est très bien rangé dans les chapelles, mais il y a beaucoup d'objets. Donc, je vais lui laisser la parole.
Voilà, donc merci et bonjour à tous. Alors, quelques mots donc sur la vente, effectivement, déjà pour remercier tous les bénévoles qui se sont activés ici. Depuis mercredi, puisque vous savez que le démarrage, la mise en place de la vente, ça commence traditionnellement le mercredi, et puis ça s'est donc achevé hier soir, bien tard. Donc merci à tous ceux qui ont travaillé à ce vaste chantier. Alors, le produit de la vente cette année sera reversé à la fondation de l'Oratoire, qui a vocation à financer. Alors, qui financera ici directement le projet de rénovation de nos vitraux, mais la Fondation de l'Oratoire a elle aussi vocation à financer toutes sortes de projets, dont des projets d'entraide, hein, ce qui sera donc le cas très certainement dans le futur. Alors, les stocks dont Béatrice nous parlait à l'instant, alors, ne seront bien évidemment pas jetés. Hein, ça a été un sujet qui a provoqué beaucoup d'émotions. Donc ils ne seront pas jetés, mais au contraire donnés à une association qui s'appelle La Gerbe et qui nous a été d'ailleurs indiquée par les bénévoles de la vente. Alors c'est une association qui propose des chantiers de réinsertion par l'emploi et également une ressourcerie. Et alors sa devise, c'est en quelque sorte offrir une nouvelle chance aux hommes, et j'ajoute aux femmes également, et une seconde vie aux objets. Donc tous ces objets qu'on ne peut plus garder dans le temple, eh ben ils permettront, ils feront la joie de personnes qui retrouveront ainsi un emploi, et puis ça fera la joie d'autres aussi, qui pourront ainsi acheter des objets de seconde main à des prix modiques, à des prix beaucoup plus abordables. Voilà. Alors. Et puis on peut également signaler que cette association, la Gerbe, donc, elle travaille également à l'international et en particulier et spécifiquement depuis le début de l'année avec l'Ukraine. Et donc, vous savez que les besoins sont grands. Et donc, c'est ce don de tout ce stock, en fait, ben voilà, c'est une belle solidarité qui est rendue possible comme ça. Alors, quelques rendez-vous pour la semaine qui arrive. Donc, dès mardi, donc Béatrice vous invite tous à un culte d'intercession avec Seine. Donc, c'est mardi, c'est au temple, de 12h30 à 13h15. Donc, ce culte, il sera suivi de 2 autres rendez-vous, un déjeuner et un partage biblique. Donc, traditionnellement, le thème du déjeuner est inspiré du partage biblique qui suivra. Donc partage biblique sur le thème des nourritures de la Bible. Donc pendant ce déjeuner, vous serez invité à partager l'une des recettes des 13 desserts de Provence. Donc déjeuner biblique en salmono de 13h15 à 14h15 et partage biblique toujours en salmono 14h15, 15h45. Le lendemain, mercredi 7, c'est la réunion classique habituelle des étudiants et des jeunes actifs, donc autour du pasteur Agnès Alinschefer, et ce sera à partir de 19h au temple. Voilà, alors j'essaye de pas être trop long, parce qu'on a fait quand même pas mal d'annonces aujourd'hui. Autre rendez-vous de la semaine qui arrive, la pause spirituelle qui sera animée donc comme d'habitude par Agnès. Donc c'est jeudi 8 de 12h30 à 13h30 au temple. Alors, deux derniers rendez-vous un peu plus lointains. Alors, je relance et renouvelle l'invitation pour du cœur de l'oratoire pour le concert de Noël. Donc qui aura lieu ici au temple le jeudi 15 décembre à partir de 20h. Hein, et là également, sachez que pour ceux qui pourraient avoir des difficultés à acheter le billet, donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'entraide hein, qui pourra ainsi vous donner un petit coup de main. Voilà, donc pour le concert du 15 décembre du chœur. Et je passe la main donc à Laurent pour la dernière annonce.
Merci Gilles. Alors une dernière annonce, Dorothée Gruel et moi-même Laurent Schmitt, donc membre du Conseil de l'Entraide, nous allons vous proposer un nouveau moment, un moment de convivialité avec jeux de société, jeux de cartes, et entrecoupé d'une pause avec des boissons chaudes et des gâteaux. Et ce nouveau moment donc se déroulera pour la première fois donc le samedi 14 janvier de 15h à 18h en salle mono. Merci de votre écoute.
Voilà, et donc dans quelques instants, donc mes collègues et moi-même, dernière annonce.
Juste avant le 14 janvier, il y a du vin chaud et du chocolat chaud, n'oubliez pas.
Oui, on vous a préparé ça. Alors, je vais pas dire aux petits oignons, ce serait pas très bon, mais plutôt donc du vin chaud et du chocolat chaud pour vous après ce culte dans la grande sacristie. Donc, surtout, ne partez pas par là, partez par ici. Il fait bien froid aujourd'hui et ça vous fera certainement beaucoup de bien d'avoir cette chaleur à boire, en même temps que la chaleur humaine de nous retrouver après ce temps de culte qui nous est offert par notre ami Christophe Cousinier. Donc, n'hésitez pas à venir dans la grande sacristie pour ce moment de convivialité. Voilà, donc vous avez entendu les annonces, nous sommes tous les trois hein, dans le conseil d'entraide avec d'autres personnes qui travaillent, et aujourd'hui donc nous vous proposons de participer à la collecte, comme chaque mois. La collecte est aujourd'hui dédiée à l'entraide de l'Oratoire du Louvre, et je vous invite donc à participer à cette collecte maintenant. Merci. Alors oui, on a oublié deux choses qui sont très importantes. On a des scouts qui vous attendent aussi quand vous repartirez de l'autre côté. Vous avez des scouts qui attendent avec leur vente de gâteaux ce dimanche. Et puis surtout, dimanche prochain, c'est la fête des enfants. Donc avec l'éducation biblique, on sera tous là pour vous proposer un magnifique conte qui est en fait une reprise d'un auteur classique très très connu. Et vous verrez que nous avons fait une adaptation un peu libre de cette pièce de théâtre magnifique. Donc vous verrez ça, voilà. Je voulais vous dire aussi que le sapin là est donc ce signe de Noël nous avait été livré par notre propriétaire, la mairie de Paris, et donc nous avons la joie d'avoir ce sapin à temps juste avant la fête de Noël. Donc je vous invite à venir très nombreux avec tous les enfants dimanche prochain ici même. Merci.
Je vous invite à la prière et à l'intercession. Avec ce texte, comme d'autres textes d'ailleurs de la liturgie que vous avez envoyés, qui sont en fait des adaptations de textes de prière du pasteur Charles Wagner, nous prions. Ô Dieu, ton visage de Père me sauve de la face indéchiffrable des fatalités les plus noires. Ne me laisse pas me perdre face à l'incompréhension, l'incohérence, la brutalité et l'injustice des humains et des choses. Mets dans mon cœur ta lumière si familière. Donne-moi ta paix. Malgré le chaos où je me débats, fais-moi comprendre que le désordre vient du regard que je porte sur les choses. Et de là où je me trouve, tout semble embrouillé, mais avec ton regard m'apparaît l'harmonie. À ma hauteur, tout est embrouillé. Sauve-moi du désordre de ma pensée. Et ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, entendons encore ces quelques mots. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas uniquement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Frères et sœurs, l'Éternel est proche de vous, à vos côtés. L'Éternel est en vous, comme cet idéal qui vous appelle vers le beau, le vrai, le bien. L'Éternel vous bénit, vous et vos familles. Allez avec la force que Dieu vous donne. Amen.